micro ouvert. Micro ouvert.
Vous écoutez Fréquence Mistral. Micro ouvert. Bonjour, il est 12h16. Bienvenue dans la première édition de Micro ouvert. Aujourd'hui, mardi 14 mars 2023. Cette émission est consacrée aux enjeux autour du soin avec la présence de deux philosophes publics, Luisa Marques dos Santos et Mathias Yushchenko. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous.
Cette émission spéciale est un partenariat entre Fréquence Mistral et Opéra Mundi, association qui organise des conférences, rencontres et ateliers pluridisciplinaires autour de sujets de société. Ces rendez-vous réguliers avec la pensée sont ouverts au plus grand nombre, jeunes publics et adultes, invités à se confronter, dialoguer et débattre, dans des lieux publics ou sur les ondes comme aujourd'hui. Bonjour Cécile Arnold, co-directrice d'Opéra Mundi.
Bonjour.
Pour commencer cette émission, est-ce que vous pourriez nous présenter votre 8e saison autour de cette thématique du prendre soin ?
Oui, alors cette 8e saison, comme vous l'indiquez, eh bien, effectivement, la 8e, on a commencé à organiser des conférences depuis 2015 sur des thématiques qui nous semblent, en tout cas, pouvoir donner du sens à un monde qui va de plus en plus vite, qui est de plus en plus complexe, et en s'interrogeant et en posant aussi notre réflexion sur des questions liées à l'écologie, à l'environnement, aux relations que nous entretenons avec le monde. Et la question du soin s'est imposée pour cette 8e saison, de façon assez logique et naturelle par rapport aux thématiques qu'on avait abordées jusqu'alors, en s'interrogeant sur comment prendre soin du monde. On s'est interrogé sur comment habiter les mondes dans lesquels nous cohabitons, enfin tous ces mondes avec lesquels nous cohabitons, et qu'est-ce que ça veut dire aussi cette question du prendre soin qui s'est imposée aussi après la crise du Covid, après aussi cette prise de conscience assez globale et généralisée dans les opinions depuis assez peu de temps au fond de la crise climatique et effectivement de cette attention qu'il nous faut porter au monde et au monde vivant, mais aussi au monde géophysique, et puis à la société, une société qui est malade, et en tout cas une société malade, en tout cas qui semble aussi beaucoup en souffrance. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'hier non plus. Voilà, donc c'est toutes ces questions à la fois de santé, mais aussi de soins, d'attention, de vulnérabilité sociale, politique, culturelle, que l'on voulait aborder, et évidemment écologique aussi, à travers cette saison de conférences qui a démarré en novembre, voilà, novembre-décembre.
Très bien, c'est très clair. Samedi 18 mars, justement, vous organisez avec les philosophes publics des discussions autour du soin et de l'entraide. Donc, les philosophes publics est un collectif de professeurs de philosophie créé en décembre 2015. À votre échelle et face aux passions tristes du ressentiment, de la peur et de la haine, vous souhaitez participer à de nouvelles façons de vivre ensemble et de vivre en paix. Vous disposez à intervenir dans la rue, dans les centres sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister et où la philosophie n'est pas nécessairement attendue. Donc, Luisa Marques dos Santos et Mathias Yushchenko, pourquoi avez-vous choisi de rejoindre ou de mettre en place ce collectif ?
Alors, le collectif, il est né d'une manière, avec un sentiment d'urgence et de besoin de créer quelque chose de collectif et qui aille poser le questionnement philosophique dans le public, dans la rue. C'était après les attentats de 2015. Et un sentiment un peu de, voilà, de besoin de reconstruire un monde, d'être en contact en fait avec la société qui nous a, voilà, qui nous a vraiment travaillé. Et bon, depuis 7 ans là maintenant, donc on fait diverses sortes d'activités en fait essentiellement liées aux demandes, hein, que l'on nous fait, hein. C'est pas nous qui allons faire une demande auprès de quelqu'un, c'est des associations, des institutions qui viennent parfois nous solliciter. Donc nos activités les plus courantes, c'est à la maison d'arrêt pour femmes au Beaumet, hein, où on fait des ateliers régulièrement. Aussi à la SAS, le service d'accompagnement à la sortie, toujours au Beaumet, où on fait aussi des ateliers non seulement avec les détenus, mais avec les surveillants. On fait aussi régulièrement des émissions à Radio Grenouille. On fait aussi des rencontres. Alors, ça s'est un petit peu arrêté malheureusement à cause du Covid, mais on faisait souvent, on allait dans la rue, par exemple au Dimanche de la Canebière, à l'époque où ça existait, et maintenant c'est sur la Canebière, mais dans, ça s'appelle Au bout la mer, c'est 3 fois par an, je crois. Et donc, on a une roue de vélo posée à l'envers et avec des couleurs qu'on fait. Le public vient tourner la roue et tombe sur une couleur. Et la couleur renvoie à un thème et il tire au sort une question. Et on se met autour d'une table avec le public qui est là et on discute sur cette question-là. Donc voilà, c'est souvent très enrichissant. Après, concernant le soin, je vais laisser parler Mathias. On fait aussi des... quand on peut. Or, il se trouve que là, grâce au partenariat avec Opéra Mundi, on a pu faire une démarche un peu différente qui est plutôt une sorte d'enquête auprès des gens qui sont soignants, soignés ou qui font de la paire aidance. Voilà, peut-être que Mathias va l'expliciter. Et c'est très intéressant pour réfléchir ensuite, pour continuer à réfléchir philosophiquement, de se nourrir de l'expérience de ceux qui vivent les choses liées au thème qui nous intéresse. Et donc ça nous semble important d'écouter aussi la parole de ceux qui vivent cela. On l'a fait aussi avec des migrants, par exemple, à un moment donné. Voilà, bon, j'ai un peu trop parlé, je te laisse. Voilà.
Pas du tout, donc Mathias, vous voulez intervenir ?
Ouais, déjà, je trouve que tu n'as pas du tout trop parlé. C'était très, très, très agréable de t'entendre. Merci aussi pour le lancement. Ce serait cru aussi sur Radio Grenouille. On est content de pouvoir passer d'une radio à une autre. On a une émission sur Radio Grenouille aussi. Et puis là, maintenant, sur Fréquence Mistral, quand je vois tous les lieux que touche Fréquence Mistral, ça donne à penser aux amis et à tous ces lieux amis aussi dans lesquels on sera sûrement diffusé. Oui, finalement, là, on est en train de rêver un peu sur les lieux et puis sur les rencontres avec le collectif des philosophes public. On avait envie d'aller partout et de rencontrer tout le monde le plus possible, peut-être par peur parfois de l'entre-soi, même si parfois ça peut faire du bien aussi de se retrouver entre soi avant de s'ouvrir aussi à d'autres. Ça, c'est sûrement aussi relié à la problématique du soin, tout ça. Et c'est vrai que ça nous a questionné, le partenariat avec Opéra Mundi, qui est un très beau partenariat pour aussi accompagner les conférences. Vous verrez sur le programme, il est facilement accessible sur le net ou sur des formats objets, on va dire, pas loin de chez vous. Plein de personnes invitées, puis ce qu'on faisait souvent, c'est des sortes d'ateliers de philosophie pour se préparer à ces grandes rencontres. Et ce qui était très beau aussi, c'est que dans ces ateliers, des gens étaient presque comme missionnés pour représenter l'atelier, des personnes qu'on trouvait être de grands conférenciers. et pour aller porter notre réflexion et qui sont des réflexions très riches. D'ailleurs, j'encourage toujours tous les gens qui écoutent des conférences à écouter aussi les prises de parole après. Et je suis toujours fasciné à quel point politiquement ce que les gens disent après les conférences sont d'une immense justesse, une immense richesse. C'est-à-dire qu'on est si le conférencier n'a pas été parfois complètement à son sujet, très souvent on peut entendre aussi des salles qui posent des questions depuis des lieux particuliers et qui font drôlement penser. Donc ça voulait dire que la pensée s'y trouvait déjà, on n'allait pas amener la philosophie là où elle s'y trouvait pas, mais au contraire aller la découvrir et la nommer selon nous. Parce que je trouve que c'est important de pouvoir s'autoriser les uns les autres, de se rendre compte qu'on fait des choses qu'on pensait ne pas faire. Et voilà, c'est ce qu'on fait avec les philosophes publics. Et on est parti avec une carte blanche pour réfléchir autour du soin et aller voir où étaient les grands aussi, mais sur le terrain, soignants et soignés, qui pratiquaient ce soin, mais qui ne faisaient pas que pratiquer, qui le pensaient aussi, parce que souvent on peut être écrasé par le mot, mais dès qu'on laisse parler les gens quelques temps, on voit tout ce qu'ils pensent aussi de leur pratique, de leur vécu, même s'ils commencent par dire qu'ils n'ont rien à dire. Donc on est parti sur ce terrain. Au tout départ, on avait appelé ça d'ailleurs enquête. Mmh. Et puis on trouvait que enquête des philosophes publics, ça mettait encore trop en avant les philosophes publics. Et on a fini par appeler ça des entretiens réalisés par les philosophes publics sur d'autres qu'eux. Et on a voulu donner la parole, et c'est ce qui se passera le samedi 18 mars là à la Fabulerie
à
11h ça commence, et puis on a prévu tout un temps où il y a des prises de parole et ensuite comment est-ce que la parole peut circuler de façon informelle sûrement à partir de 13h pour se redire dans une sorte d'after ce qu'on n'avait pas osé se dire en direct
lors d'un apéro mundi où on a l'habitude d'offrir un verre en fait après les conférences et de permettre que le temps des débats, des questions se fasse debout et non pas assis. Se fasse après un temps de pause aussi, mais moi je suis absolument ravie de ce partenariat avec les philosophes publics et très très curieuse, parce que je n'étais pas présente lors des entretiens, mais très curieuse de ce qui va se raconter, se dire, de ces témoignages, de ces groupes, de ces collectifs qui vont venir, qui sont à l'invitation des philosophes publics, qui vont venir donc ce 18 mars à 11h à la Fabulerie.
Et ces entretiens, vous les avez captés en amont, ou ils vont se faire en direct avec les collectifs qui vont venir et participer ?
On continue donc à réfléchir sur les lieux, puisque effectivement ça pourrait être une invitation à la radio et donc faire résonner le lieu dans lequel on se trouve. Et il y a d'ailleurs une très jolie double sens de résonner, hein, à la fois du côté du raisonnement et du côté de la résonance. Et oui, alors ces entretiens, on s'est d'abord, dans un premier temps, on avait envie que ce soit pas enregistré pour pouvoir parler librement, mais c'est d'ailleurs ce qu'on devrait pouvoir savoir faire à la radio. Et ensuite, on a envie que ça s'arrête pas là aussi. À savoir, pourquoi pas faire des émissions de radio, peut-être ici, du côté de Radio Grenouille, dans d'autres endroits. Et parce que aussi c'est difficile de donner la parole à certaines, donner la parole aux gens, ça peut être décevant quand on fait rien de ces paroles là quand on se livre, et on se demande comment ça peut continuer. Donc on va se demander comment vont pouvoir se décliner les différentes paroles qui ont été données dans les entretiens, déjà dans une rencontre publique le samedi 18 mars là à la Fabulerie, pas loin de la Canebière,
qui est le lieu d'une confrontation en fait incarnée, vivante, justement quand on parle d'entretien, il y a un face-à-face. Là, on sera dans un face-à-face, mais une triangulation aussi, philosophe public qui invite, Eco Opera Mundi, mais surtout philosophe public, et puis vos invités, et aussi un public inconnu, en fait. Et donc, cette triangulation, elle est, et ce côté incarné, il est très important.
Non, je suis bien d'accord avec toi, Cécile, parce que c'est vrai que lors de ces rencontres publiques-là, et sûrement on va essayer de le sentir aussi avec le public, hein, vous avez vu, souvent on se demande si d'abord on doit faire une intervention et après on laisse le public. On pourrait imaginer aussi qu'au contraire, ça vive et que ça interroge de l'intérieur, en plein cœur d'une intervention, quelqu'un aussi dit quelque chose. On va voir un peu comment se font les récits, puis on va vous parler des personnes qui sont aussi invitées. Et puis sûrement aussi, on va avoir envie de répondre, simplement parce que quand on parle des pères et la nécessité de la père aidance dans le soin, et bien sûrement aussi parce qu'il y a une forme de considération d'égalité ou d'égalité de considération pendant
peut-être
ces moments-là.
Peut-être Mathias, pour les auditeurs, tu peux juste expliciter un peu la notion de père aidance.
Alors, c'est une notion que... Alors, père, P-A-I-R, on ne sera pas tout de suite dans la psychanalyse avec d'autres choses. Oui, parce qu'on pourrait interroger d'ailleurs ces grandes figures-là, parce que avoir besoin de père ou avoir besoin de se confier aussi entre égaux, le père, c'est une autre figure que, bah, que déjà le père, ou alors le tiers aussi. Et il semble que si dans la justice, on est dans cette confrontation avec cette autre figure dont on a besoin, rencontrer un tiers, on pourrait se demander ce que c'est que rencontrer, avoir besoin de père aussi. Mmh. Et je trouve que ce sont des types de communautés différentes que désigne aussi le, eh ben, ces besoins de figures un peu différentes. Alors qu'est-ce que c'est que la père aidance? Moi, je crois que ça a résonné très fort aussi avec des choses qu'on pouvait sentir, ce besoin de se retrouver à des moments avec des gens qu'on appelle aussi des personnes concernées, qui posent aussi la grande question de savoir qui est concerné et qui ne l'est pas. Mais des gens qui auraient vécu la même chose que soi, et ça ferait partie du soin. Alors ça se trouve ça dans on pourrait penser que ça devrait se trouver partout, mais en tout cas ça a été aussi théorisé dans un type de soin et sûrement dans d'autres que j'ignore, mais dans un type de soin qu'on appelle le rétablissement. Et on a pu aller rencontrer par exemple une formation, je crois, qui est assez unique en France mais qui à mon avis va se développer, qui est le COFOR, qui est le centre de formation en rétablissement mental. Et le rétablissement, c'est une de ces approches de la santé mentale qu'on a beaucoup côtoyé. Et le lundi, ce centre de formation, qui a la particularité d'être... les formateurs sont des patients, sont donc des personnes concernées, des usagers du soin aussi. Tous ces termes-là sont sacrément intéressants parce qu'on sent toute une philosophie au travers le choix de tous ces termes-là. Et ben le lundi, il y a ce qu'on appelle les focus dans le COFOR, et c'est le moment où c'est aussi où ça s'ouvre. On parlait tout à l'heure d'avoir le besoin de temps en temps de se replier, mais ça s'ouvre vers la société civile, vers des propositions qu'on pourrait faire aussi, et on découvre ce que c'est que cette formation donnée par des personnes, des patients, sur la santé, la maladie, mais sur finalement les différentes dimensions qui font l'existence de tout le monde, à savoir sur des aides d'accès aux soins, à savoir sur des échanges d'expériences, à savoir sur la connaissance de sa propre de ses propres souffrances. Et ça, je trouve que on pourrait s'y retrouver concerné, et ça m'intéresse beaucoup qu'on puisse développer, par exemple, samedi.
Mais sur cette question de père aidant, vous nommez les enjeux de santé mentale, mais il y a également quand même, en termes historiques, toute l'épidémie du VIH-SIDA qui a beaucoup développé cette notion de père aidant, puisque à ce moment-là, les autorités sanitaires caricaturaient les personnes, les stigmatisaient et refusaient de travailler avec des scientifiques pour trouver des solutions. Et du coup, il y a bien eu un accompagnement au départ, avant que les scientifiques et les médecins se mettent sérieusement à travailler, toute cette communauté aidante qui a permis que le soin et sortir du stigmate aussi du sida, quoi.
Complètement, ça, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle le savoir expérientiel, et voir comment est-ce que les différents types de savoir, que ce soit les savoirs universitaires, ont à prendre aussi de cette expertise des malades eux-mêmes. Et c'est vrai que là, j'écoutais, pour continuer à faire circuler les radios entre elles, les différentes émissions de LSD, la série de documentaires sur France Culture, et là j'écoutais juste avant de venir le premier épisode, juste avant la période aidance, c'est sur le VIH et sur ce moment-là, comment est-ce qu'on a pu nier les malades eux-mêmes et comment est-ce qu'ils ont pu développer toute une pensée en disant que ce qui se faisait sans eux se faisait contre eux. Et en même temps, ce que je trouve très intéressant là, c'est que peut-être qu'on irait trop vite aussi en disant qu'il n'y a qu'une opposition entre les savoirs, et ça personne ne l'a dit, mais c'est ce qu'on pourrait aussi avoir envie de faire aussi, se dire qu'il y a, enfin de savoir qui est expert. Et ce que je trouve très intéressant, c'est de voir les discussions entre les prétendants, comme disait Platon, pour le savoir. Et j'ai retrouvé ça à cet endroit-là et c'était assez fascinant. Tous ceux qui prétendent dire la vérité. Et faire qu'au lieu qu'on soit que dans une guerre des différentes vérités entre elles et de ceux qui s'autorisent à la place des autres, plutôt essayer de voir qu'est-ce qu'on a à faire ensemble et comment ne pas se mépriser quand on s'ignore, quoi.
Et donc, pour revenir à votre journée du 18 mars, quelles sont les différentes structures avec qui vous allez vous entretenir ?
Pour la petite histoire, qui est à mon avis la grande, parce qu'elle est porteuse de réflexion, les personnes qu'on a déjà rencontrées, tout d'abord, on a commencé par rencontrer, lors de notre premier entretien, Laurence Vaillant, qu'on avait déjà rencontré lors d'une longue collaboration avec le MAMBA, c'est-à-dire Soutien Migrant 13, et Laurence Vaillant est assistante sociale et elle nous avait indiqué plein d'endroits qu'on avait à découvrir, qu'on devait arpenter quand on rencontrait une personne qui était sans papier et qui avait besoin de différentes choses qui ne lui étaient pas données par les institutions. Et on avait du côté de la PASS avec elle, c'est-à-dire la plateforme d'accès aux soins. Et on est très content de pouvoir recommencer nos discussions, en tout cas au niveau d'un projet comme ça avec elle. Donc Laurence Vaillant a travaillé, on a commencé à réfléchir avec elle et à entendre parler de Diogène et Incurie. Diogène et Incurie, c'est cette maladie qu'on connaît pour être du côté de l'entassement des objets, même si c'est plus complexe. Et voilà, et maintenant elle travaille du côté de Working First, à savoir, quand on veut soigner, parfois il faut voir aussi quelles sont les conditions de vie dans lesquelles on est. Est-ce que si on n'a pas de logement et pas de travail, ça pose problème. Donc Laurence, elle porte plein de choses avec elle et du côté de ses associations. On a croisé aussi Ismaël Beklak, qui a été longtemps au lieu de répit. Et on a entendu parler de ça. Alors tout le monde ne sera pas là, mais en tout cas, tous ces lieux-là seront d'une manière ou d'une autre présentes. Et si c'est pas représenté. Après, il y a eu aussi Thomas Bossetti, qui est avec lesquels on a eu pas mal de discussions et qui est du côté de Just. Mais voilà, et on verra aussi si on recroise ses chemins. Le coffre, on va voir si les personnes. On a eu un très très bel accueil. Moi, j'ai trouvé que c'était dans ce temps de réflexion avec ce centre de formation en santé mentale et en rétablissement. Et alors, pour pas faire trop liste, hein, parce qu'on sait que les tours de table ou les listes parfois peuvent perdre, mais ce sont des endroits, je pense, à habiter.
Et le GEM.
Et on a pu aller voir un groupe d'entraide mutuelle qui est le GEM Parenthèse. Et c'est absolument passionnant de voir ce que les gens ont à dire, les débats qui s'y mènent. Et Malvina Lalanne, des philosophes publics, et peut-être même rien qu'en son nom, s'y retrouve souvent à faire des ateliers philo, parce qu'on entend combien c'est philosophe quand on va les rencontrer. Et on verra qui est à la tribune et qui préfère être dans la salle, qui veut parler et qui préfère juste être là. En tout cas, je suis sûr que ça va parler dans plein de sens différents. Et pour oublier personne, on aura aussi des personnes qui vont venir. Sandra Hichet sera là aussi. Et là, il y a toute une réflexion autour des institutions et de la maltraitance dont est capable aussi l'institution, qui sera portée avec... Elle a fait plein de choses, elle, mais elle travaille en tant que médiatrice sociale aussi. Et là, il ne faut pas dire les mots trop vite, parce qu'il faut se demander ce que c'est que cette médiation, où est-ce qu'on est. Elle fait partie aussi du CHO3, donc du côté des habitants aussi concernés de la Belle de Mai. Et on a tant de choses à apprendre de toutes ces personnes-là. Et puis après, je pense qu'on aura envie aussi de dire ce que ça nous évoque, tout ce que ça nous donne à penser.
Et... Parce que l'idée, ça va être de... Vous, les philosophes publics, de philosopher avec chacun de ces collectifs ou aussi de les faire philosopher entre eux et elles ?
Ah, nous, on aimerait bien qu'ensuite, évidemment, ça continue et qu'il y ait des rencontres qui se fassent. Et pour le moment, pour le 18, ça va être une discussion publique qui va se faire. Et puis après, on verra comment continuer. Mais cette question du soin lié à quelque chose qui est dans l'horizontalité et dans un rapport au savoir qui n'exclut pas l'expertise ni la connaissance très précise que peuvent avoir des soignants qui font des études pour ça. C'est pas du tout quelque chose qui exclut ce savoir-là, mais qui accompagne. C'est une autre forme de savoir. Mais je trouve que c'est intéressant. Ça résonne par rapport au rôle de la philosophie elle-même. C'est-à-dire que, justement, la philosophie, elle est née avec la maïeutique, qui est un rapport d'égalité, en fait. C'est pas un savoir qui se pose comme sachant et donc étant un pouvoir sur l'autre, mais comme un dialogue. Où l'âme de chacun est nourrie par le dialogue. Et je trouve que c'est pas par hasard, peut-être, que finalement nous sommes attirés par ce type-là de rapport aux soins. Hein, peut-être qu'il y a aussi dans la philosophie au départ, dans l'Antiquité, quelque chose qui était de l'ordre du soin aussi. Enfin, en tout cas, les philosophes antiques comprenaient la philosophie comme une forme de soin. Donc je pense que c'est pas par hasard qu'il y a ce rapport qui nous interpelle en tant que philosophe public par rapport à ça.
C'est aussi marrant ce que tu dis, Louisa, parce que je crois que un des moments où j'ai pu vivre moi-même quelque chose comme on va dire quoi, une réunion non mixte, c'est-à-dire le besoin aussi de se retrouver dans sa différence, c'est avec une sage-femme, et c'était à l'occasion de la naissance d'une de mes filles, où il y a eu un temps. Alors vous voyez, c'était pas une thèse que ce soit tout le temps non mixte, mais un temps où il fallait que les hommes puissent se retrouver entre eux et les femmes entre elles pour parler de l'accouchement. Et ça montre déjà que ce besoin de se retrouver, alors là, le jeu de mots est étouffé, entre pères ou entre mères, c'est aussi un peu, et c'était très intéressant de voir ce qui a surgi à ce moment-là, parce qu'il y a eu plein de polémiques autour de ces réunions non mixtes, mais voir qu'est-ce que ça convoque dans le corps de l'autre aussi, un moment d'assumer, de parler de quelque part, et de voir que ce quelque part-là peut être problématique ou plein de richesse. Et c'est vrai que ce qui s'était dit dans ces premières réunions entre pères, peut-être qu'on en parlera le 18 mars, c'est pas pour faire du suspense pour les auditeurs, mais c'est vrai que c'était extrêmement étonnant de voir ce que les hommes se disaient entre eux en l'absence des femmes. Ça pouvait même être inquiétant, et en même temps il n'y avait pas que des pères, puisque notre super sage-femme était là, Odile Tagawa, que plein de Marseillais et de Marseillaises connaissent, parce qu'il y avait quelque chose en elle qui était aussi de la présence du tiers, et il y a sûrement quelque chose comme un peu de tiers aussi dans certains pères, PAIR, c'est-à-dire aussi une autre position, et c'était très important. Pourquoi je dis ça?
Après, il ne faut pas oublier que la position des hommes et des femmes dans une société patriarcale n'est pas exactement la même. Et donc, le groupe de parole de femmes ou le groupe de parole d'hommes ne vont pas aller amener les mêmes questions et les mêmes positionnements.
Oui, tout à fait. J'espère que je ne dis rien qui allait dans un autre sens que ça juste avant. Parce que je faisais aussi référence à ça, parce que la maïotique, vous savez qu'en grec, et puis c'est l'art d'accoucher des...
J'avais prévu une question autour de l'accouchement, justement, et de la maïotique.
Et donc là, on voit par cette anecdote-là que c'est sacrément intéressant de voir tout ce qui se joue aussi autour du corps. Et c'est pour ça que tu fais bien de rappeler tout ce que peut concaténer, tout ce que peut rassembler le corps comme présence de la société en nous.
Et justement par rapport à la santé elle-même, c'est-à-dire que la santé comment faire en sorte que la santé ne devienne pas une norme où le biologique soit confondu avec le social. Mmh. Hein, où, parce qu'il y a aussi ça, tu parlais du sida, il y avait justement cette normativité qui venait se rajouter sur la maladie. Et donc c'était la normale, hein, à tous les sens du terme, à ce moment-là, le malade. Hein. Et donc c'est vrai que ça nous fait aussi réfléchir à cette question-là.
Et c'est vrai que ta remarque m'intéresse beaucoup parce que j'ai l'impression qu'en 10 ans, il ne faut pas oublier qu'effectivement la société construit des groupes d'hommes et des femmes différemment. Ce qui était assez intéressant dans ce moment-là de cette rencontre non mixte autour de l'accouchement, c'est que la première parole, je vais le dire, hein, c'était horrible. Le premier homme qui parle, c'est pour dire chez moi tout va bien, ma femme on dirait qu'elle n'est pas enceinte. Et c'était horrible d'entendre ça. C'est la première parole, en plus, pour quelqu'un que je peux connaître par ailleurs, qui est une personne qui n'est pas du tout là-dedans, on comprenait pas. Et donc la sage-femme a joué son rôle de tiers en lui disant, mais j'espère quand même qu'elle est un peu enceinte, autrement c'est qu'il y a un problème. Enfin, j'espère. Et donc ce qui s'est passé là,
une possibilité de déconstruire des propos, réflexions, c'est intéressant.
Et ce qui s'est passé là, c'est ce que tu es en train de dire, c'est apparu cette abomination là. C'est apparu en le disant même. C'est-à-dire que je crois que la personne s'est décomposée au moment même où elle proférait ça, et c'était pas le groupe d'entre-soi, des mâles dominants qui étaient en train de se conforter les uns les autres, c'était ceux qui s'apercevaient que même étant contre ces valeurs-là, ça pouvait quand même les traverser, peut-être d'ailleurs parce qu'ils étaient entre eux. Et qu'un entre-soi puisse amener à de l'ouverture, je trouvais que c'était assez intéressant pour le travailler, pour le dire. Cet entre-soi-là des pères, je crois que c'est ça qui est très beau, c'est que ça peut amener des choses très universelles aussi à partir du plus singulier.
Oui, parce que patient, ce n'est pas une classe sociale aussi. Enfin, c'est pas, je veux dire, on est tous, il y a une diversité de l'individu, c'est-à-dire le malade, c'est un individu, c'est un sujet qui appartient à toutes les classes, à tous les groupes, à tous les sexes. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est de cet ordre de l'universalité possible, finalement, et qui n'est pas un enfermement dans ce cas-là, quoi.
Je vous propose qu'on prenne le temps d'une petite pause musicale. Julia Young, Ne t'en va pas. fréquence Mistral dans l'émission Micro Ouvert, une émission spéciale autour du soin avec Opéra Mundi et les philosophes publics. Donc nous étions en train de discuter de ces enjeux de la santé. Est-ce qu'on pourrait préciser un peu ces questions de savoir expert et non expert?
Oui, tout à l'heure, Louisa a parlé, justement, a évoqué ces questions de confrontation entre sachant, non sachant, etc., et qui me semble, en tout cas, rejoindre Opéra Mundi, se retrouve dans ce questionnement, puisque à travers les programmations qu'on propose et les dispositifs de rencontres et de confrontation de la pensée avec des publics qu'on espère les plus larges donc dans ces saisons de conférences, on réfléchit véritablement à cette question de l'émergence d'un sens critique partagé et d'une confrontation d'experts qui sont les penseurs que nous invitons avec des publics non experts qui sont les publics qu'on espère venir intervenir et c'est-à-dire intervenir, dialoguer avec ces scientifiques. Il nous semble qu'une société, justement, une société juste est une société peut-être largement, qui soit largement éclairée. Et cette, j'allais dire cet éclairage, qui est un petit peu réducteur, mais ces processus, justement, d'une société éclairée passent justement par ce dialogue auquel on travaille et cette journée du 18 mars à la Fabulerie donc, qui est proposée par les philosophes publics justement à cette volonté de confronter on imaginerait une réflexion sur la santé avec la parole de médecins, on inviterait les médecins, enfin, c'est un petit peu comme ça que se font les choses habituellement, les experts sont invités à parler de la santé et éventuellement on invite quelques patients pour donner des petits témoignages. Là c'est les philosophes publics poursuivre cette idée que c'est peut-être en invitant d'abord des gens qui font l'expérience de la maladie qu'on pourrait mieux remettre en question, en tout cas, cette question des sachants, des experts, de l'expertise.
Ça me permet de rebondir par rapport à une réflexion qu'on s'est faite avec Mathias au téléphone hier. C'est la question de la légitimité de qui doit parler dans ce cas-là et qui est complexe parce que c'est vrai que le présupposé selon lequel seul quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, qui a vécu l'expérience du sida peut parler du sida ou du cancer, c'est un peu réducteur puisque ça semble faire taire tous ceux qui n'ont pas fait cette expérience-là. Alors que finalement, ce qui est intéressant, c'est plutôt le commun quoi, qui se crée à travers le dialogue entre différentes subjectivités, celle du patient et celle du non-patient, mais dont la condition humaine est la même condition, c'est l'humaine condition de Montaigne, hein, tout ce qui est humain, rien de ce qui est humain ne m'est indifférent. Or, la santé est vraiment quelque chose qui manifeste l'interdépendance de l'individu avec d'autres individus et avec le monde en général. C'est-à-dire la santé est bien quelque chose qui ne peut se comprendre que dans le commun, que dans quelque chose qui est dans la relation, dans un rapport au monde. Et donc qui ne peut, même au niveau de la parole finalement, hein, il n'y a pas une parole qui peut simplement peut-être s'emparer de cette réalité, puisque par définition la santé c'est un rapport au commun, hein, c'est un rapport au monde.
Et un des enjeux, j'ai l'impression, c'est aussi comment les experts écoutent les personnes non experts et qu'il y a un grand manque de dialogue dans ce sens-là. Malheureusement, et on a beaucoup d'exemples assez tristes autour, par exemple, de toute cette méfiance, par exemple, qu'il peut y avoir sur les vaccins. je pense qu'elle est liée au manque de dialogue, du haut vers le bas, entre guillemets.
Bien sûr.
Tu as bien raison. C'est Laurence Vaillant qui va intervenir sur le thème de l'écoute. Et c'est vrai que ce qu'elle a pu nous en dire est absolument passionnant et extrêmement intéressant. Quand on entend le temps que les gens prennent, par exemple, à Diogène et en Curie, et Laurence en particulier, pour rentrer en relation avec quelqu'un qui a entassé tant de choses à la maison, parce qu'évidemment au départ on ne veut pas ouvrir la porte, et c'est peut-être dans un premier temps du temps passé sur le pas de la porte, accepter de commencer par pas rentrer, accepter de commencer par pas comprendre. Et c'est cette écoute-là qui peut nous faire réfléchir toutes et toutes sur qu'est-ce que c'est qu'écouter, parce que souvent on n'écoute pas, on attend de répondre, et comment est-ce que ça présuppose un certain silence, un certain accueil déjà aussi, et une certaine indétermination de ne pas savoir ce qu'on va faire après, de pas tout de suite savoir ce qu'on va en faire. Et ce temps-là de l'écoute, cet espace de l'écoute, ce temps de l'écoute, on a vraiment de quoi écouter ce qui nous parle de tout ça. En écoutant d'ailleurs Louisa aussi et Cécile, ça m'interrogeait drôlement sur cette histoire des experts, des non-experts, ceux qui sont légitimes, ceux qui sont pas légitimes, parce qu'on sait bien finalement que c'est violent de dire à quelqu'un qu'il est pas légitime pour parler de quelque chose. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'on a tant besoin de se retrouver dans certains moments proche de personnes qui ont vécu les mêmes choses que nous? Moi, ça me semble une grande question. J'ai vraiment l'impression que cette écoute-là ne sera pas la même. On a besoin de ça parce que il me semble que ça produit une sorte de confiance instantanée, qu'on sait qu'on va pouvoir s'appuyer sur une expérience de l'autre, alors que d'habitude on pourrait dire que la confiance, ça se construit, ça prend du temps. Et il y a quelque chose de comme une sorte de relation un peu phénoménologique, phénoménale de ce qui se passe entre nous, comment je vais pouvoir m'ouvrir tout de suite à l'autre aussi, et comment c'est important aussi de pouvoir faire confiance vite. Et peut-être que la confiance, comme la foi, je sais pas, ça produit des appuis, et je m'appuie sur ce qu'a pu sentir l'autre. Après on peut reprendre sa confiance ou autre chose, mais il me semble qu'on n'est pas dans la même construction temporelle que quand on se rencontre, ou on se renifle un petit peu, ou on prend un certain temps. Là, ça permet d'autres médiations sociales, d'autres types de relations. Et ça, j'aimerais bien qu'on puisse prendre le temps de le goûter, parce qu'il nous semble que dans la vie, il y a quand même des moments où on a besoin de présupposer le commun et pas de devoir le faire. Et peut-être ce que ça veut dire, c'est que c'est peut-être une histoire de moments aussi. Ce qu'on a vu avec le groupe d'entraide mutuelle, c'est qu'il y a peut-être des moments où on a besoin de se retrouver ensemble, mais si on passe toute sa vie qu'ensemble, c'est plus un temps commun, c'est un repli, et ça peut nous faire souffrir aussi. Et ça me semble intéressant, cette histoire de moments. Frédéric Worms a écrit un livre qui s'appelle Le moment du soin, pour montrer de toute la pluralité dont on a besoin dans une existence. Et ça permet de ne pas faire que les thèses s'entrechoquent, soit entre soi, soit pas entre soi, mais au contraire, soit dans un rapport un peu dialectique.
En tout cas, vous avez choisi dans vos invités des structures qui travaillent avec des personnes minorisées dans cette société, entre des personnes avec des troubles mentaux ou des personnes qui n'ont pas forcément de papier et qui vivent une stigmatisation, notamment avec la PASS ou On a eu une interview récemment du 113 ici dans nos locaux. Et donc, pourquoi ce choix-là d'être allé justement peut-être entre un public qui est loin, qui n'est pas pair entre les travailleurs sociaux qui travaillent avec eux et le public de ces structures?
Merci, parce que j'ai l'impression que c'est complètement en lien avec ce qu'on disait avant, à savoir que c'est le fait d'être... On a l'impression, je sais pas, quand on va au groupe d'entraide mutuelle, au GEM parenthèse, que peut-être c'est le fait d'être minorisé à un endroit qui fait qu'on est ouvert à tous les endroits minorisés. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant quand on voit l'insolence de la norme ou l'insolence de l'être humain qui se vit comme normal et qui est incapable d'entendre justement justement ces différentes souffrances, ou au contraire ces différences, il y a quelque chose qui est comme immédiatement ouvert. Et là, on a l'impression que ça peut circuler. C'est pas tout le temps le cas. Hein. On sait que parfois dans les associations, c'est aussi des groupes ou des lobbying, souvent les endroits comme ça fermés. Mais peut-être que ce vécu-là rend humble et modeste par rapport à la violence de la norme. Et je pense que ça doit être travaillé. Ça sera peut-être travaillé par l'un ou l'une d'entre nous. Peut-être Maïssa Fala travaillera là-dessus.
Et je voulais dire que le 11, samedi dernier, on a fait un atelier, donc toujours invité par Opéra Mundi, avec un petit public sur la question de la santé. Et dans le public, il y avait des étudiants en médecine de l'écurie, je ne sais plus le nom, et c'est un nom compliqué, qui est donc une écurie qui est gratuite pour des étudiants qui sont issus des quartiers nord de Marseille essentiellement, voilà. Et c'était vraiment extraordinaire parce que c'est vraiment des futurs médecins et ils trouvaient que c'est essentiel pour leur métier, en fait, ça. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose où on se dit « ouais, le médecin, c'est le gros méchant ». Au contraire, c'est ça qui soigne, en fait. Hein. Et ils montraient... ils étaient ravis qu'il y ait cette réflexion-là et ils disaient tous que c'est quelque chose qui manque dans leur formation. Donc, je pense que il faut aussi le voir comme ça, comme peut-être une perspective. Enfin, moi, j'aimerais bien que ce qu'on fait là, ça permette d'ouvrir des perspectives pour l'enseignement, l'évolution de la médecine, parce que pour mieux soigner, parce que le but, c'est de mieux soigner, finalement. Ça s'appelle Medenfarkiné. Voilà.
Ça fait plaisir d'entendre ça, en tout cas.
Ce que je trouve intéressant dans cette expérience aussi, c'est que en fait les philosophes publics se sont saisis de ce sujet effectivement qu'on a posé en se disant ben on anime des ateliers philo, mais en fait cette question de la santé elle est vraiment centrale. Mais c'est un petit peu le fait d'ouvrir un dossier de travail, en fait, comme vous avez l'habitude de faire d'ailleurs aussi. C'est-à-dire quand une question travaille votre collectif, vous y travaillez énormément, cette question d'un dossier qui s'ouvre et qui, au fond, ne se fermera pas, me semble très intéressante. Peut-être le 18 mars, on aura l'occasion de rencontrer des publics qui seront présents et qui souhaiteront venir apporter aussi... de l'eau au moulin dans la suite du 18 mars, parce que ce n'est qu'un début, en fait, j'ai l'impression, de votre côté.
Oui, tu as raison, c'est vrai que quand on rencontre autant de personnes, on se lit et on a envie de voir tout ce qui peut continuer. Et puis, comme le disait Louisa tout à l'heure, savoir comment est-ce que ça peut être non seulement de la réflexion mais de l'action. Comment est-ce qu'on peut aller rencontrer, ne serait-ce qu'on se disait très simplement, des élèves qui dans des lycées veulent faire médecine, pour leur montrer comment est-ce qu'il peut y avoir d'autres façons de faire de la médecine, et savoir qu'est-ce qu'ils veulent choisir, et ce monde-là, comment il peut être aussi difficile, hein, puisque le premier serment d'Hippocrate, c'est d'abord ne pas nuire, savoir si on accomplit ça, hein. et ce d'abord-là, il est important dans l'abord des médecins. On a tous des histoires là-dessus, hein.
Ben merci d'être venu dans les studios de Fréquence Mistral, oui, aujourd'hui. Peut-être on peut conclure avec toi, Cécile, pour nous parler un peu des prochaines dates de cette grande thématique autour du soin.
Donc, le 18 mars, rendez-vous avec nous et les philosophes publics à la Fabulerie. Donc, je rappelle, la Fabulerie, c'est un lieu où nous avons déjà fait plusieurs rencontres. On a nos locaux, notre bureau qui est à l'étage. Donc, c'est un super partenariat. Ça se trouve au croisement de la Canebière et du boulevard Garibaldi, qui est le départ du cours Lyoto. Donc, c'est vraiment très accessible, métro Noailles et tramway Noailles également. À la croisée des chemins, une très belle salle. Nous poursuivons sur cette question de la santé pour deux rendez-vous, plusieurs rendez-vous. Nous avons des actions culturelles au centre hospitalier Valvert, qui est un centre hospitalier dédié aux questions de santé mentale. Donc, avec des ateliers philo, auxquels participera notamment un groupe de philosophes publics, des ateliers d'écriture avec Ramona Badescu, qui est une auteure marseillaise. Et on s'interrogera sur la question du soin qu'on porte à l'écologie, à l'environnement. Donc, ce sera un peu plus... mais on va essayer de mélanger, en fait, ces questions de santé et de soins apportés au monde extérieur. Et puis également, une conférence à l'hôpital, au centre hospitalier Valvert, aussi le 13 avril, avec une anthropologue de la santé qui nous parlera de cette question de faire l'autruche, la question du déni dans le monde de la santé. Voilà. Et un autre rendez-vous très important aussi, le 24 mars, pas sur la santé, mais plutôt sur la santé sociopolitique et des médias, sur la question de l'écologie de l'attention, qui sera portée par un philosophe qui s'appelle Yves Citon, spécialiste des médias et de la littérature. Voilà. Et en mois de mai, on a un très beau programme. Je vous invite à regarder notre site opera-mundi.org et également à faire une petite recherche Google pour retrouver le site internet des philosophes publics, tout nouveau site qui est en cours d'écriture avec pas mal de comptes rendus.
Philosophes publics, web adore.
Très passionnant.
Facile à
trouver.
Tu peux répéter, on a mal.
Mais je ne suis pas sûre de comment... C'est philosophe public, web adore, mais après, je ne sais plus ce qu'il y a après. Désolée.
Avec un bon moteur de recherche,
on trouve
facilement.
Sinon, on a une page Facebook à partir de laquelle on peut communiquer avec nous aussi.
Voilà.
Merci beaucoup. Merci. Bah, en tout cas, le partenariat entre Fréquence Mistral et Opéra Mundi continuera dans les prochains mois et on aura l'occasion d'entendre sur les ondes différents événements. Voilà.
Très bien.
On se quitte avec Claudine Lebègue, Perfecto. Merci d'être venue.
Les poings serrés contre ta peau, tu cherches un endroit idéal, perfecto. Un endroit pour poser ta peau. Les poings serrés contre ton cœur, comme si on lui voulait du mal. Tu la protèges, ta douceur. Sur tes épaules, il y a le poids des étoiles qui ne touchent pas le ciel. Souple comme une claque, tu cherches un combat idéal, perfecto. Un combat contre les matraques. Col relevé, tu barricades, comme si on voulait t'arracher des mots d'amour comme des grenades. Dans ta poitrine, y a un tambour, ton cœur s'en va comme un amour. T'en vas en guerre. Perfecto. Quand je t'ai dans la peau, perfecto. Nous deux en solo, perfecto. Ça sent le tabac, ça sent le roussi. T'ouvres ta fermeture éclair. Perfecto. Faudrait pas que ton cœur s'ennuie. Tous les poteaux, les chiens de la casse t'ont dit de pas te laisser faire. Paraître ça craint pour ta carcasse. Sur tes épaules, il y a le poids des sentiments qui ne tombent pas du ciel. Dieu ni maître pour personne. À la porte de ta cuirasse. Ni Dieu ni maître pour personne. C'est une lutte. pour la classe. Perfecto. Quand j'étais dans la peau, perfecto. Nous deux en solo, perfecto. Perfecto. Quand j'étais dans la peau, perfecto. Nous deux en solo, perfecto. Thank you.